Bonjour et bienvenue à notre émission Les Rendez-vous du droit. Et nous allons aborder aujourd'hui le sujet de droit. Le sujet de droit. Eh oui, les juristes ne font rien comme personne. Quand on parle d'un individu, on dit une personne. Et nous, pour parler d'une personne, nous disons un sujet de droit. Et on pourrait se dire, après tout, pourquoi pas faire simple et dire il y a des personnes qui ont des droits, qui ont des obligations. Eh bien non, le droit a besoin avant de dire ce qu'est une personne. Et pour dire ce qu'est une personne, le droit dit que c'est un sujet de droit. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Comme d'habitude, je ne serai pas seul pour en parler, je suis accompagné de vous, Marie, que nos auditeurs connaissent maintenant très bien, mais ils sont ravis de vous entendre à nouveau vous présenter.
C'est la troisième fois que je reviens, effectivement. Je suis toujours Marie Cariovelli, je suis doctorante en droit fiscal et je travaille, dans le cadre de mes recherches doctorales, sur l'impôt sur le revenu.
Un sujet sensible. Et vous, Quentin, qui nous accompagne également, qui est aussi un sujet de droit.
Mais pour moi, ce n'est que la deuxième fois que je viens, mais je suis Quentin Mollier, doctorant en droit international privé. Et je travaille sur les méthodes utilisées par le juge pour déterminer la loi applicable dans un litige international.
Oui, est-ce que vous pourriez donner un petit exemple?
Par exemple, exemple que j'ai plus ou moins donné la dernière fois que vous m'avez vu ici. Si vous êtes français et qu'à l'occasion de vos vacances au Chili, vous écrasez un Canadien, la question sera de savoir, enfin une des questions sera notamment de savoir quelle est la loi applicable à ce litige, française, chilienne ou canadienne.
Ben voilà,
ou autre éventuellement.
On a tout compris. Alors, nous allons sans tarder débuter cette première séquence de l'émission consacrée au sujet de droit par les questions que vous vous posez. Les questions que vous vous posez. A priori, quand on aborde la question de la personne, on se dit qu'il y a une différence relativement simple. Il y a les personnes d'un côté, nous trois, hein, et puis il y a les choses, nos feuilles de papier, les lunettes, le crayon. Et en fait, nous allons voir qu'en droit, c'est un petit peu plus compliqué. Alors déjà, petit jeu de question, un individu, ça veut dire quelque chose en droit ?
Pas vraiment. Non, l'individu n'est pas une qualification juridique. Okay.
Alors, dans les choses, est-ce qu'on fait, le droit fait une différence entre les cailloux, les marguerites et les animaux ?
Bon, bah, les animaux sont un petit peu plus proches de nous que les cailloux, quand même, puisqu'ils entrent dans la catégorie qui peut nous être commune d'être vivant.
D'accord, voilà. Donc, être vivant, c'est une catégorie juridique. Donc, il n'y a guère que les animaux, hein, alors, qui sont quand même considérés comme des choses. Mais le fait que ce soit des êtres vivants fait qu'on ne va pas traiter les chiens comme des petits tas de cailloux.
Et on s'en réjouit.
Alors, ensuite, quand on aborde l'humain, là, on a quand même une panoplie qui est assez large de choses qui se rattachent à l'humain et qui ne sont pas tout à fait des personnes.
Tout à fait. Tout d'abord, il y a le corps humain.
Oui.
Donc, nous avons tous ici présent un corps. Mais un jour, nous ne serons plus des personnes, malheureusement. Mais notre corps nous survivra en partie.
Voilà, donc le corps humain demeure, même si la personne est décédée.
Ce qui lui donne d'ailleurs certains droits, puisqu'il y a un droit au respect du corps.
Oui.
Le droit va au-delà de la mort, finalement.
Alors, est-ce qu'il y a une différence à faire entre être humain et personne ?
Et ben, de la même façon que le corps humain va au-delà de la mort, l'être humain, lui, va en deçà de la vie, si l'on veut, puisque l'embryon est déjà un être humain et a droit, lui aussi, au respect en tant que tel.
Ah, donc on voit déjà que quand on aborde la question de la personne, on a un triptyque. Il y a l'être humain qui commence au tout début, même quand on ne le voit pas, le corps humain qui est encore là, même quand la personne n'est plus vivante, et puis la personne pleine et entière, celle qui est vivante, en pleine forme, en tout cas en vie. Et c'est d'elle dont on dit qu'elle est sujet de droit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Sujet de droit, ça veut dire être titulaire de droit et redevable de devoirs, d'obligations.
C'est une pleine capacité à avoir des droits et des obligations. Et ce que dit d'important le droit, quand même, c'est que toute personne, donc qui est sorti de la catégorie, enfin qui est un être humain, mais qui est vivante, qui est née et qui est encore en vie, toute personne a une pleine capacité, qu'on va appeler la capacité du oui-sens.
Alors aujourd'hui, c'est le cas et ça paraît assez évident dans un régime où les hommes sont égaux, tout de même que tous les hommes, tous les homo sapiens vivants, soient des sujets de droit, c'est-à-dire des personnes titulaires de droits et d'obligations, mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque jusqu'en 1854 en France, existait la sanction de la mort civile. D'ailleurs, on peut également penser, autre exemple, au droit romain, dans lequel le seul titulaire de la personnalité juridique était le pater familias, le seul à avoir la personnalité juridique, au contraire des fils de famille et des esclaves, par exemple.
Bon. Et alors, quand même, aujourd'hui, il y a des gens qu'on appelle des incapables. Et il y a ce qu'on appelle aussi des incapacités. Alors, ceux-là, est-ce que ils viennent de Rome qu'est-ce que c'est? Ils sont dépourvus, c'est pas des sujets de droit?
Alors, si, les incapables, aujourd'hui, sont sujets de droit, mais ce n'est pas leur incapacité de jouissance dont on parle, c'est leur incapacité d'exercice. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent être mineures, par exemple, ou qui peuvent être des incapables majeurs, et dont une autre personne va être chargée de s'occuper de certains de leurs droits et obligations. Leurs parents, par exemple, pour les mineurs.
Oui. Ou les personnes âgées, faibles.
Pour les majeurs.
Elles sont sujets de droit, mais elles sont assistées, voire représentées dans l'exercice des droits qu'elles ont. Voilà. Et donc, ça ne remet pas en cause le fait que toute personne vivante est sujet de droit.
D'où la distinction, capacité de jouissance et d'exercice.
Et voilà la distinction, capacité d'exercice. Alors, est-ce qu'on peut, question que se posent les juristes, et qu'on peut se poser, et c'est ça qui est important, qu'on peut se poser uniquement quand on a dit que la personne est sujet de droit, c'est-à-dire quand on a dit à la personne, on affecte une qualité qui est l'aptitude à avoir des droits, qui est cette capacité de jouissance. Eh bien, une fois qu'on a fait ce choix, enfin que le droit fonctionne de cette manière, on peut se dire, est-ce qu'on peut attribuer cette qualité de sujet de droit à d'autres entités qu'à des personnes?
Tout à fait. Oui. C'est le cas à l'heure actuelle. On accorde la qualité de sujet de droit, de personne morale, à un certain nombre de groupements d'individus, que sont par exemple les associations, mais aussi les sociétés commerciales.
Oui.
Ça, ce sont des personnes dites privées, mais il existe aussi des personnes publiques, à commencer tout de même par la personne peut-être la plus phare aujourd'hui, l'État.
Eh oui. Est-ce qu'on peut... Alors, vous voyez que... Alors, maintenant, donc, on va considérer que ces entités forment un tout distinct des individus, des personnes qui la composent. Et donc, on les considère comme des personnes, on va les appeler des personnes morales qu'on oppose aux personnes physiques. Mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? Et se dire finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas donner la qualité de sujet de droit, une personnalité juridique, à encore autre chose qu'à des entités?
Avant de répondre, je pense que c'est important de faire un tout petit point pour rappeler que la personnalité morale, c'est un instrument juridique qui a émergé à une période très particulière de l'histoire de nos sociétés. Ça a émergé au XIXe siècle, un moment où le capitalisme s'est développé et où les objectifs économiques poursuivis par les sociétés humaines étaient très spécifiques. On a développé la personnalité morale pour permettre de limiter la responsabilité individuelle des personnes physiques qui souhaitaient développer ces projets. À l'heure actuelle, l'humanité est confrontée à bien d'autres enjeux que le développement économique, donc on peut envisager éventuellement que la personnalité morale pourrait être un outil utilisé en ce sens.
Absolument, oui. Puisque les enjeux aujourd'hui d'envergure sont des enjeux pour beaucoup écologiques, environnementaux, démocratiques, économiques également, parce que toutes ces notions se recoupent, mais on peut bien entendu imaginer que la forêt amazonienne ou certains fleuves, ou même l'environnement dans son ensemble, ou même les générations futures puissent constituer elles-mêmes des personnes d'autres, de nouvelles formes de personnes morales, c'est-à-dire des personnes titulaires de droits et éventuellement d'obligations, dont l'exercice serait effectué par d'autres personnes, bien entendu, puisqu'elles ne pourraient pas agir comme les personnes morales elles-mêmes, mais elles pourraient être représentées et donc avoir des droits.
Oui, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même toute la... toute la malléabilité de la technique juridique, puisqu'au départ, on parle de quelque chose de simple, les choses, les personnes. Et on dit aux personnes, on attribue la qualité de sujet de droit. Et après, on se dit, mais attribuer la qualité de sujet de droit peut être mis au service d'autres objectifs. Et à la fin des fins, même si on n'est pas encore arrivé jusque-là, à la fin des fins, on finit par dire, pourquoi ne pas donner la personnalité juridique, soit à des choses, le fleuve, l'Amazonie, soit à des gens qui ne sont pas encore là, les générations futures.
Voilà.
Donc c'est, ça, c'est l'abstraction et la beauté de la technique juridique. Alors, malgré tout, on reste réaliste et les personnes physiques ne sont pas tout à fait considérées exactement comme les personnes morales, notamment sous l'angle de la dignité. Vous êtes d'accord ?
Je suis d'accord, même si on se rend compte que les personnes morales ont droit à certains droits fondamentaux. Donc, d'une certaine manière, le statut de ces deux types de personnes peut se rapprocher. Mais en effet, les personnes physiques restent très distinctes des personnes morales dans leur régime parce qu'elles disposent de ce qu'on appelle la dignité. Et cette dignité va s'accoler à l'indisponibilité de leur état et l'indisponibilité de leur personne.
Bon, Marie a déjà fait la transition. Là, sur l'indisponibilité de l'état des personnes, on va voir que, et sur l'indisponibilité de la personne même, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Je pense que l'application de l'indisponibilité à l'état des personnes qu'on va réduire aussi à l'état civil pose moins de problèmes que l'indisponibilité des personnes. Et donc, nous allons sans tarder passer à notre seconde séquence, le droit par l'exemple, pour illustrer l'indisponibilité de l'état civil. Le droit par l'exemple. Le droit par l'exemple, l'état civil. L'état civil, la personne physique, vient au monde, mais elle ne vient pas au monde toute seule, elle vient au monde en société, donc intrinsèquement, la personne fait partie d'un groupe, et donc il faut la situer au sein de ce groupe. Et bien pour situer la personne physique au sein du groupe, le droit s'y intéresse, s'en occupe en lui donnant ce qu'on appelle un état civil. Et comme cet état civil est indissociable de la personne, bien il est normalement indisponible. Mais en fait, on va voir que c'est aussi simple que ça. Alors, déjà, d'où nous vient-il cet état civil ? Quelle est la première séquence ou la première justification ?
Alors, je suis très contente de vous en parler en tant que fiscaliste, parce que c'est le droit fiscal qui a commencé par identifier les personnes. Alors, ça peut paraître un petit peu surprenant, mais quand les États sont nés, l'État a décidé de prélever l'impôt. Pour pouvoir prélever l'impôt de manière efficace, il fallait pouvoir identifier le contribuable.
Eh oui, pour ta peau, portefeuille, il faut savoir où il se trouve. Alors ça, c'est l'état civil dans sa version, on va dire, comme un auteur, un excellent auteur, ma collègue Anne-Marie Leroyer l'a dit, c'est état civil comme police civile. Il s'agit de pouvoir identifier les individus pour leur imposer ici une contrainte qui est la contrainte fiscale.
Ceci dit, au-delà de cette fonction de contrôle que peut avoir l'état civil, il y a tout de même une autre fonction qui est une fonction de socialisation, c'est-à-dire que l'individu, en ayant une identité civile, peut se situer par rapport aux autres et peut situer les autres membres de la communauté par rapport à lui. Donc c'est une fonction de socialisation qui est assez essentielle et on imagine bien que dans le rapport entre les différents individus d'une communauté, la volonté puisse jouer un certain rôle dans la façon dont on tend à se présenter aux autres.
En fait, les deux sont conciliables, c'est-à-dire qu'on peut... La fonction de police civile suppose une certaine stabilité, mais la fonction de socialisation de l'état civil autorise que les individus aient quand même des marges de manœuvre dans la façon dont ils se socialisent par rapport aux autres. Alors, on va illustrer ça. Dans l'état civil, il y a le nom et le prénom.
Le nom et le prénom, on peut en changer. L'article 60 du Code civil le dispose bien. On peut en changer, cela dit, pas à n'importe quelle condition. C'est-à-dire qu'on peut en changer si on présente un intérêt légitime à ce changement de nom ou de prénom. Donc il faut éviter
le nom ridicule, ça serait par exemple si votre nom de famille est Renault et que vous décidez d'appeler votre fille Mégane. Mégane Renault, ça passe pas forcément très bien.
Oui, c'est pas ça. Je sais plus si ça se fait encore les Méganes.
Je sais pas, j'ai donc pas d'étudiant.
C'est un modèle de voiture qui est fabriqué par fabricant Renault. Donc évidemment, quand on s'appelle du nom d'un modèle de voiture, c'est pas comme on est une personne et qu'on n'est pas, une chose. On préfère avoir un nom. Oui.
Il y a d'autres exemples également. La volonté, par exemple, de franciser son nom, qui consiste en un intérêt légitime d'après le législateur.
Donc si par exemple vous appelez Peter, vous êtes d'origine britannique et que vous devenez français, vous pouvez demander à vous faire appeler Pierre.
Bah oui, avec le Brexit, ça peut être
dedans, hein, c'est... J'ai peur de subir le racisme anti-britannique.
Non, on n'en est pas là. Mais alors, oui, Pia, si vous posez une question un peu indiscrète, Marie, mais vous appelez Marie Cariouvelli. Et alors, vous avez deux noms.
Tout à fait. Alors, il y a quelques années, je m'appelais encore Marie Cariou. Ah. Et j'ai décidé d'accoler le nom de ma mère au nom de mon père parce que j'avais énormément d'homonymes. Je sais que c'est extrêmement surprenant pour les Parisiens, mais moi, je viens de Bretagne et le nom Cariou est extrêmement répandu. Donc, comme le prénom Marie n'est pas non plus un prénom extrêmement original, j'ai eu plein de problèmes avec des homonymes.
Très bien. Donc ça, c'est un motif. Alors, simplement, c'était un petit peu plus facile de passer de Cariou à Cariouvelli puisque vous avez pris le nom... les deux noms de vos parents.
Tout à fait, que j'ai conservé mon patronyme de naissance.
Donc la procédure est plus simple. Mais enfin, voilà, donc on voit qu'il y a que la volonté a sa place dans ces deux éléments importants de l'état civil que sont le nom et le prénom. La mention du sexe sur l'état civil, a priori, on se dit que là, ça n'a pas vocation à changer, que la volonté a peu de part. Et bien, en fait, non, c'est plus compliqué que ça.
Et bien, pourtant, si, et elle en a d'ailleurs de plus en plus, puisque dans un arrêt du 11 décembre 1992, la Cour de cassation expliquait que le changement de sexe à l'état civil était possible sous deux conditions. D'une part, l'adoption d'un comportement social conforme au sexe dont on désire avoir la mention à l'état civil, et d'autre part, un changement d'apparence physique induit par une opération chirurgicale. Ce qui faisait que finalement, il y avait tout de même un critère biologique, donc de réalité en un sens, pour pouvoir obtenir un changement de sexe à l'état civil. Désormais, et ce depuis la loi du 18 novembre 2016, il suffit d'une réunion de faits tendant à montrer que le sexe désiré par l'individu est différent de son sexe biologique, ce qui légitimerait donc un changement de la mention de son sexe à l'état civil. Autrement dit, on se fonde plus sur un critère social que biologique.
Alors, ça a fait grincer des dents, pourquoi ?
Tout à fait, donc la loi de 2016 a été questionnée parce qu'en fait on a pu commencer à s'interroger pour savoir si vraiment... le critère du comportement social devait être le critère unique permettant de faire modifier la mention du sexe à l'état civil. Est-ce que ce n'était pas une régression vis-à-vis de ce qu'on considère
être... Pourquoi ce serait une régression
Ce qu'on aurait pu penser que qu'est-ce qu'un comportement de femme, par exemple, et qu'est-ce qu'un comportement d'homme.
Oui, mais c'est pas ça le sujet. C'est la question, c'est pas de se comporter, c'est de se présenter à autrui avec une identité... qui est celle d'homme, ou un sexe, enfin, se présenter avec une identité sexuelle qui est celle d'un homme ou celle d'une femme. Ce n'est pas un comportement, le but, ce n'est pas de dire il fait la cuisine, il fait le ménage, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment se présente-t-il aux autres. Et si une personne se présente d'un sexe qui n'est pas le sexe mentionné sur l'acte d'état civil initial, eh bien, on peut considérer, il y a un certain nombre de traces qui permettent de considérer que socialement, cette personne se comporte comme du sexe opposé. Et le cas reste relativement rare, de telle sorte que lorsque c'est avéré, pas de raison de compliquer l'existence des personnes qui se sont engagées dans cette voie. La date de naissance, qui fait aussi partie des actes d'état civil, est-ce qu'on peut en changer ? Alors là, on a une histoire qui est assez rigolote.
Alors oui, c'est un peu plus rare de s'interroger sur la question du changement de la date de naissance. Mais l'année dernière, il y a eu un cas qui a un peu fait parler dans la presse. C'est le cas d'un Néerlandais du nom d'Emile Rattelband. Emile Rattelband a 69 ans et l'an dernier, il est allé devant le juge néerlandais pour demander une modification de sa date de naissance. En effet, Emile Rattelband considéré être discriminé en matière de travail d'une part.
Il a quel âge ?
Il a 69 ans et il souhaitait que sa date de naissance lui permette d'avoir 49 ans afin de faciliter ses rencontres amoureuses sur l'application Tinder.
Pas de nom. Moi qui me sens très jeune, là je vais... Alors on lui a dit oui ou pas ?
On lui a dit non, de même qu'on lui aura dit non en France. Il vient dire qu'en France la question ne s'est jamais posée, mais qu'aux Pays-Bas elle s'est posée et qu'on lui a dit non. Il faut bien comprendre que si on lui dit non, c'est quand même pour diverses raisons assez compréhensibles juridiquement. C'est-à-dire qu'imaginer que quelqu'un de 30 ans dise soudainement qu'il a 12 ans, il serait tout d'un coup beaucoup plus irresponsable. Ou alors qu'un individu de 12 ans dise j'en ai 40, il pourrait tout d'un coup voter. Un individu de 70 prétendant en avoir 30 ne serait donc plus à la retraite, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'âge a des conséquences juridiques assez importantes et que modifier unilatéralement son âge par le jeu de sa volonté engendrerait certaines conséquences assez déroutantes pour le droit.
Oui, ce qui veut bien dire que la date de naissance n'est pas uniquement un facteur d'identification des individus, c'est que ça détermine un certain nombre de droits et d'obligations. Le sexe, ça permet de dire homme ou femme, ça permet de, c'est un élément caractéristique qui permet de reconnaître une personne, mais auquel finalement il est attaché assez peu de conséquences. Qu'on soit homme ou femme, on a les mêmes droits, principes de non-discrimination entre les hommes et les femmes. Il y a aussi une autre chose d'un petit peu gênant à ce changer d'âge, c'est que quelque part, on voit apparaître cette idée qu'on pourrait décider, au-delà de son état civil, de l'état de la personne, on pourrait finalement décider de sa propre personne. Et là, ça devient un peu plus compliqué. C'est le dur de l'indisponibilité dans lequel il faut rentrer, qu'il faut approfondir. Et c'est le temps d'aller plus loin. Allons plus loin. L'indisponibilité de la personne. Cette question de l'indisponibilité, c'est d'abord de dire c'est l'impossibilité de faire des actes juridiques sur quelque chose, donc sur sa personne. Mais si on pose les choses de manière un peu plus concrète, c'est au fond de dire est-ce qu'on est propriétaire de soi ? Cette aspiration à disposer de soi-même comme on l'entend, c'est une aspiration qui est assez naturelle. L'homme peut faire beaucoup de choses, donc, principe de liberté, il fait ce qu'il veut. Mais le droit n'est pas forcé d'admettre toutes les facultés de l'homme, y compris celles qu'il exerce sur lui. Le droit n'est pas obligé de les consacrer, de les tenir pour du droit. Il y a une séparation, il y a un écart entre le fait et le droit. Et il est donc normal que sur ces différentes aptitudes et sur ces velléités de l'homme à décider pour lui-même, le droit prenne parti. En préparant cette émission, on s'est dit, si on regarde les choses de manière pas forcément sous l'angle de la technique juridique, mais en essayant de les dire le plus simplement possible, le droit a fondamentalement le choix entre trois attitudes, qui sont la réprobation de ces actes qui manifestent la puissance de l'individu sur lui-même, ce peut être l'indifférence, en lui disant vous faites ce que vous voulez, ou ce peut être la consécration, ce qu'on peut dire une forme d'encadrement de ces actes qui manifestent, encore une fois, cette volonté, cette puissance de l'individu sur lui-même. Le but maintenant, ce n'est pas de vous donner des réponses aux sujets difficiles qu'on va aborder. C'est de vous dire comment un juriste les aborde. Et on va commencer par un sujet qui est lourd, qui est grave, qui est celui du suicide. Alors, Quentin, est-ce que vous voulez, démarrer ?
Sur le suicide, une première attitude de la part de l'ordre juridique imaginable est celle de la réprobation. Il est tout à fait envisageable, effectivement, qu'un droit sanctionne le suicide, notamment en refusant de donner sépulture aux suicidés. En droit français actuel, ce n'est pas le cas du tout.
Oui, il y a un autre exemple qui est... Parce qu'évidemment, on ne va pas sanctionner la personne qui s'est suicidée, ni ses proches, mais on peut aussi, dans des dispositifs de réprobation, considérer qu'en cas de suicide, une assurance vie, donc une assurance décès, ne fonctionnera pas. Donc autrement dit, il n'y aura pas de versement d'un capital au bénéfice des héritiers, parce que le décès a été provoqué par un suicide. Bon, ce qui n'est plus le cas, ce qui n'est plus la solution en droit aujourd'hui. Mais voilà, des dispositifs qui peuvent être des dispositifs de réprobation. Donc voilà, ça c'est le premier.
Pour autant, on peut quand même se poser une question. Si le droit choisit de ne pas sanctionner le suicide, le consacre-t-il pour autant ? En droit français...
Je vous arrête, mais consacrer le suicide, a priori, ça ne veut rien dire. On ne va pas consacrer le suicide. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Consacrer le suicide, ça veut dire consacrer le droit.
Consacrer le droit au suicide. Voilà. C'est-à-dire un droit garanti par l'ordre juridique à se suicider. Imaginons par exemple un cas où un individu souhaite se suicider et qu'un autre individu l'empêche de se suicider. Si le premier individu voulant suicider avait précisément un droit au suicide, il s'ensuivrait que celui l'ayant empêché de se suicider aurait commis une faute, et donc que l'individu ayant voulu suicider pourrait obtenir de sa part des dommages et intérêts. C'est-à-dire, on serait dans le cadre classique du droit de la responsabilité. Or, ce n'est évidemment pas le cas. C'est-à-dire que si vous vous suicidez tout seul sans aide de personne, vous en avez la faculté. Vous maîtrisez votre corps, vous en êtes possesseur, mais vous n'avez pas le droit qu'aurait un propriétaire sur son corps et qui pourrait s'opposer à ce que quelqu'un le sauve ou non d'un potentiel suicide. C'est là qu'on ne peut pas parler de droit au suicide. C'est une simple liberté ou faculté.
Et donc là, on voit qu'on n'est pas propriétaire de soi, d'une certaine manière, parce qu'on n'a pas un droit. On peut faire ce qu'on veut de sa propre vie, mais ça n'est pas un droit. Donc quelque part, on est possesseur de soi, mais pas propriétaire. Alors la question de la consécration de ce droit hypothétique, elle peut se poser dans l'hypothèse de l'empêchement, elle peut se poser aussi dans l'hypothèse de l'aide.
Tout à fait. Oui. Et l'aide en est une autre manifestation. En ce sens que si vous ne pouvez pas vous suicider par vous-même ou que vous ne le souhaitez pas, vous pouvez demander l'aide de quelqu'un. Et quelles seront les conséquences juridiques de cette assistance au suicide? Si on considérait que le droit au suicide était consacré, on ne pourrait pas considérer que aider quelqu'un à se suicider serait constitutif d'une faute pénale. Alors qu'à l'heure actuelle, que ce soit un médecin qui soit dans ce cas-là ou que ce soit un proche, par exemple un membre de la famille qui va aider un individu à se suicider, il va être considéré par le droit comme étant fautif.
Donc, si on se résume, on voit bien que sur cette question du suicide, eh bien, le droit a finalement une position d'indifférence, qui est de dire qu'il n'y a pas de réprobation, il n'y a pas de consécration, les individus font ce qui est en leur puissance, mais le droit n'ajoute rien à l'état de nos consciences. Autre sujet, où là on va voir justement ça se passe un peu différemment, la procréation médicalement assistée, qui marque quand même, là aussi, hein, une puissance, une aptitude de l'homme à décider de choses qui, a priori, ne procèdent pas que de sa volonté. Qui veut commencer?
Je peux commencer. Par exemple, si on reprend le triptyque établi un tout petit peu plus tôt et qu'on commence par la réprobation. La réprobation en matière de procréation médicalement assistée, de PMA, consisterait à dire, d'accord, la technique de la PMA existe, mais on la sanctionne, on sanctionne son utilisation. Si on se tourne vers ce que constituerait l'indifférence du droit vis-à-vis de la PMA, on pourrait à ce moment-là considérer qu'une forme d'indifférence du droit, ça serait également reconnaître que la technique de la PMA existe, mais que les individus peuvent ou non l'utiliser, éventuellement se poserait la question de son remboursement par la sécurité sociale, par exemple. Mais il n'y aurait ni sanction, ni consécration. En revanche, si on se tourne vers la consécration, je ne sais pas si tu veux traiter ce point-là, par exemple, Quentin.
Bien, la consécration consisterait à l'autoriser, mais précisément à l'encadrer. C'est toujours ce mécanisme-là. Quand on autorise quelque chose qui auparavant était interdit, on ne fait que l'encadrer. C'est-à-dire qu'on ne l'autorise pas de façon absolument illimitée, précisément. On encadre. En autorisant, on pose toujours des limites.
Et alors, quel est le sens de l'évolution, quand même?
Bien, il semblerait qu'on aille vers une plus grande ouverture de la PMA, plus seulement aux couples hétérosexuels.
Voilà, et donc à des personnes seules, mais probablement que, alors ça j'ai pas, mais le but encore une fois, c'est pas de donner des solutions, mais une des possibilités serait de dire, de le donner à des personnes seules, mais en vérifiant malgré tout l'intégrité d'un projet parental. Bon. Cette question, elle se pose également, alors, on voit bien, encore une fois, petite synthèse, on voit bien que sur la PMA, l'attitude du droit est une consécration, mais sous forme d'encadrement. Mm-hmm. Et donc, on n'est pas dans l'interdiction, on n'est pas dans l'indifférence, on est dans l'encadrement. Troisième sujet, mais qui va montrer deux choses, qui va nous montrer qu'on est dans la réprobation, mais que ce n'est pas forcément toujours une bonne idée de rester dans la réprobation, quand même pour des raisons de principe, on souhaiterait y rester. Et l'exemple qu'on va prendre, c'est celui de la GPA, qui, elle, a priori, quel est son régime?
Le régime de la gestation pour autrui est très clair en France. Mm-hmm. Toute convention de GPA est interdite en France. Ceci dit, comme de façon concrète, le droit constate qu'il y a de nombreux individus, enfin nombreux ou pas d'ailleurs, mais des individus qui vont aux États-Unis, en Russie ou en Inde, ce sont les trois principaux pays, pour faire advenir leur désir d'enfant et qu'ils l'obtiennent par une convention de GPA là-bas, il se trouve que l'État doit faire face à ces enfants qui sont nés. Quoi qu'on en pense, ils sont bien nés. Or, l'État français, désormais, alors même qu'il considère toujours nul les conventions de gestation pour autrui, reconnaît les conséquences de cette naissance, c'est-à-dire en termes de principalement en termes de filiation et de nationalité. C'est-à-dire que l'État, de façon pragmatique, ne cherche pas à sanctionner l'enfant pour le comportement des parents qu'il juge, pour l'instant du moins, toujours répréhensible.
Tout à fait. Donc finalement, la sanction de la GPA est inopérante, malgré l'interdiction de principe.
Elle est plus symbolique que pragmatique. C'est-à-dire qu'on distingue ces deux plans-là. Effectivement, symboliquement, on l'interdit. De façon pragmatique, on ne sanctionne pas les individus.
Oui, ce qui fait que quand on aborde, et encore une fois, on peut sur le principe avoir une position négative sur ce dispositif, il reste que, en restant dans la sanction, bien, finalement, c'est une sanction de papier. Et l'idée de dire, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de consacrer en encadrant, ce qui pourrait éviter quand même ce que nous, Français, pouvons considérer comme des dérives, c'est-à-dire la GPA, où on va choisir, par exemple, les gamètes en fonction des qualités identifiées des donneurs, ce qui peut poser un vrai sujet. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, plutôt que d'avoir cette posture de principe, d'avoir une posture réaliste? Et je pense que cette observation peut constituer le mot de la fin sur tous ces débats qui sont des débats de société, sur lesquels on s'affronte souvent avec de grands arguments de principe, et se dire que probablement, plus un sujet pose de questions de principe, plus le juriste a intérêt et à le traiter de manière pragmatique. En tout cas, ce peut être l'apport des juristes à ces débats de société. Mais je pense que ce dernier mot est une bonne façon de marquer la fin de ce rendez-vous, de ces rendez-vous du droit consacrés au sujet de droit. Merci beaucoup, à très bientôt.